place publique.
La fin semble programmée pour Publicitas, qui traverse de graves soucis financiers après avoir brassé des milliards il y a encore une vingtaine d'années. Les éditeurs de journaux, y compris dans notre région, ont dû rompre dans l'urgence leur relation avec la régie publicitaire lausannoise pour ne pas perdre l'une de leurs principales sources de revenus. Un épisode de plus dans la crise qui touche la presse écrite, plus que jamais, vous allez l'entendre, plus que jamais obligé de se réinventer. On débattra aussi d'égalité salariale entre hommes et femmes. C'était la revendication numéro un hier lors de la fête du travail en Suisse. Enfin, le photographe neuchâtelois Guillaume Perret nous fera l'honneur de sa présence en dernière partie d'émission. Il est le photographe de presse suisse de l'année. Le prix lui a été remis la semaine dernière à Berne. Il nous parlera de son travail, de sa démarche et de sa vision du métier.
Jusqu'à 19h, place publique. Gabriel Devec.
Bonsoir à tous. Après l'Hebdo, l'ATS ou encore les regroupements chez Tamedia, nouveau coup dur pour la presse écrite en Suisse. La principale régie d'annonces publicitaires, Publicitas, est à l'agonie, lâchée par la plupart des éditeurs, avec des conséquences, y compris dans la région. Contraint de réagir pour ne pas perdre une source principale de revenus, les quotidiens Arc Info, le quotidien jurassien et le journal du Jura ont annoncé lundi avoir confié la gestion des annonces nationales au groupe Gassman à Bienne. Mais pour Philippe Amédreau, spécialiste des médias et chargé de cours au Media Lab de l'Université de Genève, cette crise est avant tout la crise de Publicitas. Le pronostic vital de la presse n'est pas engagé. Néanmoins, les éditeurs vont devoir assurer la transition et ne pas laisser échapper les annonceurs locaux qui autrement risquent de se détourner des journaux au profit des géants numériques que sont Google, Facebook et consorts. On écoute Philippe Amédreau.
Si vous voulez, d'une certaine manière, avec la disparition de Publicitas à terme, on a ce qu'on appellerait la désintermédiation. C'est-à-dire, au fond, Publicitas vivait sur la base de commissions. La question, c'est de savoir si, un, on peut soit avoir le personnel formé, compétent et suffisant dans les journaux pour faire l'interface directement auprès des annonceurs. S'il faut une structure, ça se semble pouvoir faire Tamedia avec d'autres partenaires, c'est-à-dire créer une nouvelle structure, un nouveau pôle, mais qui sera probablement moins coûteux et surtout qui rendra l'argent plus rapidement et dans des bonnes conditions aux bénéficiaires directs, c'est-à-dire l'éditeur, quelle que soit d'ailleurs sa taille. Si vous voulez, la désintermédiation, si ça se fait au profit du journal, des éditeurs qui vont donc moins devoir payer de commission, c'est une bonne nouvelle. La question, c'est durant la phase intermédiaire, est-ce que, un, il y aurait des compétences chez Publicitas, il ne s'agit pas non plus de détruire l'image de cette entreprise d'une manière inéquitable. Il y avait des compétences. Et à partir de là, si ces compétences n'existent pas au niveau de la surface du journal régional, local, ça peut poser un vrai problème. Est-ce que les surfaces dites de publicité telles que Facebook ou d'autres supports, médias sociaux, offrent une interface de qualité pour recevoir les annonceurs, etc. Ça, c'est une vraie question. Je crois que là, oui, aujourd'hui, des entreprises comme Facebook s'adressent quasiment à l'acteur annonceur local, le garagiste, le petit commerçant, et leur propose des formules qui sont des formules compétitives. Et c'est vraiment là le défi. Maintenant, on a un défi qui, dans ce qu'on appellerait la révolution industrielle du secteur de la publicité, passe nécessairement par des compétences digitales accrues, par des combinaisons, par des politique tarifaire qui combine le print et le digital. Bref, il faut rechercher à trouver au milieu de ce qu'on appelle le management des médias une place pour de nouvelles formules qui séduiront l'annonceur en lui disant « Venez chez nous, nous le quotidien jurassien, nous Arc Info, nous le journal du Jura ou que sais-je, nous avons malgré notre petite taille ou notre taille locale, régionale, les compétences de personnel adéquats qui remplacent ceux ou celles des compétences qui étaient celles de Publicitas. »
Et pour réagir à cette actualité, à ces propos, nous avons le plaisir d'accueillir Chantal Taux. Bonsoir.
Bonsoir Gabriel Devec.
Vous êtes la coprésidente de Fijou, une association qui plaide pour de nouvelles solutions de financement du journalisme. Alors Chantal, comment vous analysez ce qui est en train de se passer avec Publicitas? Est-ce que comme Philippe Amédreau, vous pensez que la presse écrite, notamment régionale, va pouvoir s'en remettre, voire même gagner au change?
Ah, on peut l'espérer, mais ce qu'il faut voir, c'est que la presse écrite a perdu ces 10 dernières années la moitié de ses revenus publicitaires qui sont partis sur les réseaux sociaux et qui ne sont pas venus, qui n'ont pas migré sur les sites des journaux. Alors, est-ce que la pub locale suffira? Une pub locale, disons, mieux gérée, avec moins d'intermédiaires, moins de commissions, suffira à compenser ces pertes? J'ai quand même un petit doute au niveau du chiffre d'affaires. Ce qu'il faut dire quand même, c'est que historiquement, la publicité locale, c'était aussi de l'information qui intéressait les lecteurs.
Et vous qui avez donc vécu la fin de l'Hebdo, vous étiez rédactrice en chef adjointe. Depuis, vous avez connu bien sûr ces annonces inquiétantes pour la presse avec l'ATS qui se restructure, avec Tamedia qui resserre ses titres. Aujourd'hui, Publicitas, à vous entendre, on a l'impression que c'est un mouvement inéluctable, un peu comme la fonte des glaciers. On assiste impuissant à la disparition d'un marché, le marché du papier.
Alors, je ne crois pas qu'on soit impuissant, mais ce qui est sûr, c'est qu'on a pris une révolution technologique de plein fouet, que le monde des médias, éditeurs, journalistes confondus, n'a pas su très bien appréhender cette révolution digitale, et puis en tirer parti. Ça a commencé tout gentiment, puis maintenant c'est le tsunami. Mais dans d'autres secteurs industriels, il y a les mêmes évolutions. Alors on peut certes avoir quelques regrets, on peut se dire que voilà, peut-être qu'on aurait dû s'y prendre différemment, mais il y a des solutions. Si on a perdu la moitié de nos revenus en perdant la publicité traditionnelle, eh bien, on peut chercher d'autres sources de revenus. On peut agir sur les prix aussi des produits de médias. Et il y a aussi des opportunités de se réinventer et d'aller de l'avant. Ça sert à rien de se dire que avant c'était mieux. C'est pas tout à fait sûr non plus. Il faut surtout mettre des propositions sur la table, et c'est ce que fait FIJO, donc cette association pour financer le journalisme.
On va en parler de votre association, Chantal Talks. Un mot quand même sur les différents titres, catégories de titres dans la presse suisse. Est-ce qu'ils sont tous, ces titres, logés à la même enseigne? Est-ce que des titres, justement, de presse régionale qui fidélisent leurs lecteurs, on le voit avec les récents sondages, apparemment le nombre de lecteurs reste pour beaucoup de ces journaux stable, voire même pour certains en progression. Est-ce que ce n'est pas là le signe d'un certain espoir? Il y aura toujours un besoin pour une presse locale, régionale?
Oui, je pense que la presse locale et la presse locale imprimée sur papier a peut-être de plus beaux jours encore devant elle que les grands quotidiens régionaux qui sont soumis à une concurrence et puis aussi à une concentration féroce.
Chantal Talks, vous réfléchissez, vous l'avez dit, à d'autres modes de financement depuis plusieurs mois. Quelles sont, selon vous, les pistes qui, à ce jour, notamment en Suisse romande, vous semblent les plus prometteuses?
Alors, disons que si on considère que les journalistes font un travail utile au débat démocratique, on peut peut-être se poser la question d'un financement public. C'est des choses qui existent dans la culture. Pourquoi ne pas accorder à la presse une aide à l'innovation technologique, une aide à la création de nouveaux médias? Mais au sein de FIJO, on a aussi pensé que ce serait bien d'avoir des fonds pour aider les jeunes lecteurs à s'abonner. Une sorte de magic pass pour comme dépenser comme ça un petit peu d'argent pour contrer cette culture de la gratuité qui a fait tant de mal au financement de la presse. Et puis on envisage aussi d'avoir des fonds pour financer des grandes enquêtes. Ça s'appelle le pacte de l'enquête. Au total, on a imaginé à l'échelle romande un dispositif entre 15 et 20 millions de francs par année, qui pourrait être alimenté à la fois par les collectivités publiques, c'est-à-dire les cantons, quelques villes, la loterie romande. C'est des choses qui existent pour le cinéma, pourquoi pas pour la presse. Disons, maintenant, on constate, par rapport à certaines actualités politiques ou institutionnelles, que la couverture traditionnelle par les médias ne se fait plus. Et quand même, comme on est dans un pays où on vote 4 fois par année au minimum, il faut que les citoyens reçoivent de l'information. Il y a une autre solution aussi pour financer la presse.
Et on va conclure avec celle-là.
Le prix des magazines et des quotidiens. Mais peut-être que là, ça pose la question de l'accès à l'information.
Merci infiniment Chantal Taux pour cet éclairage. Merci aussi pour ces pistes de solutions. On va bien sûr aussi suivre les suites du débat Nobilag qui parle d'éventuellement d'étendre la redevance aussi à la presse. Chantal Taux, on aura l'occasion d'en reparler. On vous souhaite une bonne soirée. Merci d'être venu dans Place Publique. À bientôt.
Merci et bonne soirée à tous.
Place Publique. Gabriel Devec.
Et place au débat, on commence avec cette citation. C'est vraiment un des plus grands scandales qu'il y a aujourd'hui dans notre pays. Des mots tenus hier à Sion, en Valais, par le président de la Confédération, lui-même, Alain Berset, qui dénonce ainsi les inégalités salariales entre hommes et femmes. Le conseiller fédéral socialiste n'était pas tout seul hier à manifester son indignation à ce sujet. En Suisse, des milliers de personnes ont manifesté en profitant du 1er mai et de la fête du travail pour réclamer donc l'égalité salariale. Ils étaient plusieurs centaines dans la région, notamment à Neuchâtel et Reconvilliers. Au centre des discours, le salaire des femmes réduit de 7% par rapport aux hommes pour un travail égal, selon des statistiques, en tout cas la part inexpliquée est de 7%. Pour beaucoup, il s'agit d'une discrimination qui se fonde donc sur aucun critère objectif et surtout, il s'agit d'une pratique jugée illégale, puisque l'égalité salariale est inscrite comme principe dans la Constitution depuis 1981. L'occasion donc, dans Place Publique, d'ouvrir le débat pour savoir comment corriger le tir et surtout amener les entreprises à faire mieux, à donner l'exemple. Deux invités sont avec nous. Mélanie Brulhart-Nussbaumer, bonsoir.
Bonsoir, Gabriel Devec.
Vous êtes députée socialiste au Parlement jurassien, soyez la bienvenue. Avec nous également, Marco Tadei, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes membre de la direction de l'Union patronale suisse. Alors, on commence avec vous, Mélanie Brulhart. Vous avez pris la parole lors du 1er mai à Reconvilliers, hier, avec un message. Les femmes gagnent moins que les hommes. Le dialogue, finalement, a ses limites, puisqu'il est, au bout d'un moment, sans effet. Il faut des mesures contraignantes au niveau de l'État, au niveau politique. Vous pensiez à quoi ?
Je pensais à l'application de la charte pour l'égalité salariale qui a été signée par plusieurs cantons et plusieurs villes de Suisse. Cette charte n'a aucune valeur contraignante. C'est sur la bonne volonté des entreprises qu'elle peut être appliquée. Et on sait aussi que la Confédération a mis en place un projet lancé en 2009 sur le dialogue sur l'égalité salariale et que, en fait, il était basé sur une base volontaire et que 90% des entreprises qui avaient été contactées avaient opposé un refus ou n'avaient pas répondu à cette demande de la Confédération. Il a fallu ensuite un courrier signé du Conseil fédéral pour que seulement 51 entreprises participent à ce projet. Donc, on voit que le volontariat a ses limites et puis qu'à un moment donné, il faut des mesures étatiques pour lancer la machine et puis que les entreprises se mettent en marche pour analyser leur salaire et puis prendre des mesures pour que les femmes gagnent autant que les hommes.
Et d'ailleurs, dans le Jura, vous avez été l'initiatrice d'un projet accepté par la grande majorité du Parlement qui oblige les entreprises soutenues ou mandatées par l'État jurassien de montrer patte blanche.
Exactement. Donc, bientôt, les entreprises qui demanderont un subventionnement ou qui postuleront pour un marché public devront prouver qu'elles réalisent l'égalité salariale au sein de leurs entreprises. On veut que l'argent du contribuable, lorsqu'il est dépensé et puis qui va profiter à certaines entreprises, le soit dans des entreprises qui soient respectueuses de l'égalité. Et en effet, cette motion a été acceptée à une écrasante majorité, que ce soit de droite ou de gauche, puisque 50 députés ont voté oui et il y a eu seulement 7 votes négatifs.
Marco Tadei, on va vous faire réagir, membre de la direction donc, de l'Union patronale suisse. On l'a dit, hein, 37 ans après avoir été inscrite dans la Constitution, l'égalité salariale, c'est toujours pas une réalité dans le marché du travail. Est-ce que vous comprenez celles et ceux qui prônent davantage de fermeté à l'encontre du milieu du travail ?
Oui, alors bonsoir. Peut-être la première remarque préliminaire, c'est quand même de souligner que au nom de l'Union patronale suisse et au nom du milieu économique, nous sommes bien sûr nous nous opposons bien sûr à toute forme de discrimination. Hein. Nous sommes pour l'égalité salariale et pour le principe à travail égal, salaire égal. Hein,
donc c'est une précision hyper importante, effectivement, vous faites bien de le dire. On est tous, on poursuit tous le même objectif. Maintenant, comment on y arrive, c'est le sujet de la discussion. Voilà, exactement.
Alors maintenant, par rapport aux moyens, je rappelle au public qui nous écoute qu'à l'heure actuelle, il y a un projet de révision de la loi sur l'égalité qui est actuellement discuté au Chambre fédérale, qui a fait l'objet de nombreuses discussions, il est actuellement au Conseil des États, et suite à la dernière discussion plénum, on en arrive à une proposition qui est celle de au fond de renvoyer le projet en commission, parce que les sénateurs se sont rendus compte que le projet qui avait été initialement élaboré par le Conseil fédéral, qui prévoyait l'introduction au fond de contrôle dans les entreprises, n'est pas au fond efficace. Il n'arrive pas à atteindre le but qui est celui de l'égalité salariale. Donc on a une situation au Conseil fédéral où le problème, c'est un problème, il est identifié, on a conscience du problème, ça c'est la première chose. Et la deuxième, les mesures qui ont été proposées par le Conseil fédéral, qui vont dans le sens d'un contrôle des salaires, n'ont pas fait, on va dire ça comme ça, l'unanimité au Conseil des États, et actuellement le projet est en train de discuter pour voir s'il y aurait d'autres solutions plus efficaces afin d'atteindre l'objectif qui, encore une fois, est le même pour nous tous.
Le contrôle des salaires, c'est justement un levier utilisé par cette charte dont on parlait, qui va être appliquée prochainement dans le canton du Jura. Le contrôle des salaires donc permettrait à des entreprises de mettre la deuxième, si j'ose dire, pour gommer les inégalités. Pourquoi, pour vous, c'est pas une solution acceptable? On parle pas de la position du Conseil des États, mais de la position des milieux patronaux que vous représentez ce soir.
Oui, alors de manière générale, on s'oppose parce qu'il s'agit bien sûr d'une intrusion de l'État dans le mode de fonctionnement des entreprises. Ça, c'est le premier point, c'est un point de principe. La deuxième, et je pense que c'est aussi important de le dire, c'est que nous considérons que ce n'est pas une mesure efficace. Hein, en introduisant ces contrôles, on ne fait que s'attaquer aux symptômes. Le problème, et le problème encore une fois qui est reconnu, qui est celui de la différence, l'inégalité salariale, a plusieurs causes. Les causes sont multiples. On considère, nous, qu'il faut s'attaquer, ce qui est logique, aux causes, vraiment à la racine du problème. Et parmi ces causes, il y a des éléments d'ordre, je dirais, structurel qui sont là, auxquels il faut s'attaquer, tels que, par exemple, le fait que les femmes subissent, bien sûr, davantage que les hommes, l'interruption d'une carrière professionnelle, due notamment à la maternité, qu'elles sont actives dans des secteurs à plus bas salaire de manière générale. Et puis surtout, il y a aussi, on oublie trop souvent, on sait en Suisse, la grande majorité des femmes sont actives à temps partiel, à peu près 60%. Donc tout concourt et tout fait que, en moyenne générale, si on compare les salaires des hommes et des femmes, on a des salaires qui sont inférieurs par rapport à ceux des hommes. Alors notre avis est celui de s'attaquer à ces causes par des mesures d'ordre structurel qui s'attaquent, encore une fois, à ces variables explicatives de manière à ce qu'on ait une véritable égalité. Et ce n'est pas en introduisant des contrôles qu'on arrivera au but qui est celui de la Constitution fédérale.
Mélanie Brulart, Nussbaumer, il y a autre chose à faire avant d'enquiquiner les entreprises, créer une bureaucratie qui enfle avec ces contrôles. On peut s'attaquer aux causes peut-être plus profondes liées justement à l'interruption de carrière que subissent les femmes dues notamment à la maternité.
Voilà, donc le logiciel qui est utilisé par la Confédération, le logiciel Logib, permet d'évaluer les différences salariales et ce logiciel prend en compte les années de service auprès de l'entreprise. C'est une des variantes. Ça permet ensuite à l'entrepreneur de se rendre compte des différences et de voir ce qui est explicable ou non. Concernant les interruptions de carrière pour les femmes, donc je dois dire déjà, premièrement, il y a quand même très peu de femmes qui, maintenant, à l'heure actuelle, arrêtent de travailler pour s'occuper de leur enfant. Elles continuent à temps partiel. Ensuite, lorsqu'un entrepreneur engage une personne, c'est parce qu'elle est apte à effectuer le travail pour lequel elle est engagée. Si vous prenez une caissière ou un caissier de supermarché, je pense pas, enfin moi quand je fais mes courses, j'ai jamais vu qu'il y avait des Speedy Gonzales qui arrivaient à scanner les aliments plus vite que leur ombre parce que simplement ils avaient été à 100% pendant 10 ans. Ils vont à un moment donné à la même vitesse qu'une autre personne qui aurait été à 50% pendant la même période. Au contraire, je pense qu'à un moment donné, la performance horaire est la même, qu'on soit à temps partiel ou à temps complet, quel que soit le nombre d'années. Et en plus, on sait qu'à partir de 80% de temps de travail, on a exactement la même efficience qu'à 100%, parce que on est aussi moins fatigué, on a moins de problèmes de santé.
C'est intéressant ce que vous dites. Déjà, une remise en question quelque part du système de calcul de la grille salariale, c'est peut-être ça que vous mettez sur la table. Marco Taddei, une réaction ?
Par rapport à tout ça, non, je dirais que, encore une fois, les causes, encore une fois, sont connues, hein. L'interruption, c'est une réalité. Le fait que les femmes travaillent à temps partiel n'a rien à voir avec leur efficacité, leur rapidité, hein. C'est un fait.
Mais avec leur niveau de salaire, quand même. Avec leur placement dans la hiérarchie des salaires.
Oui. D'accord, mais ce que je veux dire, c'est que là, on est en train de parler de moyenne générale. Hein. Quand on regarde la méthode qui est utilisée, c'est des tendances générales. Alors, encore une fois, si on regarde aux variables explicatives, si on essaie de les isoler, on voit que le fait que, encore une fois, il y ait quand même plus d'interruptions de carrière, qu'il y ait plus de femmes à temps partiel et qu'il y ait plus de femmes aussi qui n'occupent pas des emplois où il y a plus grande flexibilité géographique et temporelle, fait que, encore une fois, au niveau général et global, on est des salaires inférieurs. Voilà ce que je veux dire. Et par rapport à l'efficacité, là, je suis d'accord avec madame, hein, ça n'a strictement rien à voir.
Donc une autre preuve que finalement l'inégalité salariale n'est pas pertinente. Un autre élément qui est intéressant et peut-être sur lequel on peut vous faire réagir, c'est une forme de conscientisation des patrons, conscientisation de l'état des salaires dans leur entreprise, sans parler de publicité ou de publication de ces résultats. Est-ce que les entrepreneurs n'auraient pas intérêt à mieux prendre conscience peut-être de phénomènes implicites, hein, qu'ils ne maîtrisent pas, sur la manière dont ils attribuent les salaires et les calculs pour les hommes et les femmes dans leur entreprise? Est-ce que ça, pour vous, à titre vraiment individuel par entreprise, c'est envisageable?
Alors, je peux peut-être réagir pour une fois tout ça. D'abord, moi, je dirais à titre individuel par entreprise et par branche, et peut-être même au niveau de convention collective, ça on soutient, hein, y a pas de problème. Il ne faut pas que ce soit une contrainte, une mesure générale. Et tout ce qui va dans le sens de campagne, d'information, de sensibilisation, ça aussi, on soutient. D'ailleurs, on est prêt à collaborer avec les syndicats, hein, dans ce domaine. Donc ça, oui, à ce genre de mesures qui sont au fond des mesures douces et pas contraignantes.
Mélanie Brulart, on voit qu'il y a quand même une marge, hein, de discussion possible, il y a des mesures à prendre, il y a peut-être des consensus à trouver au niveau politique, mais cette fameuse histoire de liste noire, hein, ça c'est les termes de travail suisse adoptés lundi, cette liste des mauvaises entreprises qui jouent les mauvais élèves, apparemment ça braque plus qu'autre chose. Est-ce qu'il n'y aurait pas meilleur temps d'utiliser la méthode douce continuée, puisque les chiffres apparemment montrent que, bon an, mal an, la situation s'améliore gentiment.
Donc si on attend que la situation s'améliore toute seule, le salaire des femmes sera au niveau de celui des hommes d'ici à peu près un siècle, donc je pense qu'il faut quand même certaines mesures. Je ne suis pas pour des mesures qui braquent, ça c'est clair, parce que j'estime que s'il existe une liste noire, que ce soit des entreprises ou d'autres, si on commence comme ça sur un système de délation, c'est très difficile ensuite pour l'entreprise de refaire sa réputation, et puis elle peut aussi être dans une situation qui fait qu'il y a des différences de salaire avec la volonté de les changer. Et puis, il faut quand même toujours passer par le dialogue. Voilà mon avis.
Vous êtes membre d'une direction, hein, une direction d'une entreprise avec une cinquantaine d'employés, voire plus. Vous êtes donc un bon exemple de ce qui peut se faire. Vous êtes une cadre, vous êtes cadre dans cette entreprise. Quelle piste vous proposez, par exemple, au patron qui nous écoute?
Alors, je travaille dans une entreprise qui emploie une grande majorité de femmes, et je remarque qu'en fait la charge organisationnelle familiale est portée par ces femmes. Alors même que les CCT sont disponibles pour les femmes et les hommes, je vois que chaque fois qu'un enfant est malade, c'est toujours la femme qui va demander d'avoir congé pour pouvoir s'occuper de son enfant. Et ce que je leur dis, moi, c'est que oui, bien sûr, elles ont droit à certains jours, mais qu'elles peuvent aussi demander à leur mari de prendre ce jour de congé. Et à chaque fois, c'est l'étonnement, et elles se disent « Ah ben oui, finalement, pourquoi pas ?» Et à chaque fois qu'elles ont demandé au mari de prendre congé, le patron du mari était d'accord. Et puis, ce que j'aimerais dire ici, c'est à tous les hommes qui nous écoutent, c'est qu'ils sont parfaitement capables de prendre soin et d'éduquer leurs enfants d'une manière certainement différente que leur compagne, mais avec tout autant de valeur. Et puis, ils doivent aussi prendre cette place à la maison, parce que tant qu'on sous-entendra que la femme est meilleure à la maison qu'au travail, il y aura aussi ces inégalités. Et c'est, là je rejoins M. Tadaï, une des sources du problème, c'est bien le manque de partage des tâches, que ce soit au travail ou à la maison. Et je suis heureuse de l'entendre proposer des solutions. Ce que je vois comme solution, moi, c'est que les entreprises se mettent en groupe pour proposer des crèches d'entreprise. Je suis aussi pour le télétravail, je suis pour le job sharing, donc n'hésitez pas à engager des cadres femmes qui peuvent partager un poste et qui pourront aussi être disponibles tout au long de la semaine. Et ce que je voudrais dire aussi, c'est que s'il y a du travail à temps partiel, pendant ce temps partiel, les femmes ne font pas rien, elles ne sont pas sur leur canapé à attendre que ça se passe, et elles apprennent énormément dans le savoir-être, dans la médiation, dans la diplomatie, les discussions, la formation des apprentis, tout ça, tout le savoir-être est au moins aussi important que le savoir-faire, et elles apportent ça à leur entreprise.
Merci infiniment à tous les deux d'être venus débattre de cette égalité salariale, non pas du principe, on l'a bien compris, plutôt des moyens pour y arriver. Mélanie Brulart, Nus Baumer, merci de nous avoir rejoints, ainsi que Marco Tadaï, merci à vous également. Bonne suite de soirée, bonne soirée tout court même.
Merci beaucoup, bonne soirée.
Au revoir.
Place publique.
Il est le photographe suisse de l'année. Le Neuchâtelois Guillaume Perret a reçu le Swiss Press Award la semaine dernière à Berne pour son travail réalisé avec Daniela, une femme souffrant d'un cancer. Des photos d'une poignante sérénité que vous pourrez admirer sur le site web du photographe, en lien sur notre page d'émission. Des photos publiées dans le magazine de l'hôpital Neuchâtelois. Et Guillaume Perret est justement notre invité pour cette dernière partie de Place Publique. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes donc photographe indépendant, autodidacte, et 9 ans, quelque chose comme ça, 9 ans après, vous êtes lancé, vous êtes reconnu par vos pairs dans la presse comme le meilleur photographe du pays. Alors on imagine votre joie, votre fierté, surtout que le travail primé n'est pas plus actuel aujourd'hui qu'hier, que demain.
Non, effectivement, c'est une récompense qui est incroyable pour moi, qui était vraiment, sincèrement inattendue. Et elle est d'autant plus inattendue qu'il récompense un travail qui n'est pas forcément très médiatiquement dans les habitudes. C'est-à-dire que ça ne récompense pas un accident ou un événement d'actualité qui a défrayé la chronique, mais plutôt un regard personnel.
Quel signal est lancé à la profession avec cela, avec ce choix, ce parti pris?
Ben, moi, je l'interprète en tout cas comme une manière de mettre en valeur peut-être ce qui fait la singularité des photographes, que c'est aussi un être humain qui a son propre regard et qui n'est pas là juste pour rendre compte d'un événement ou d'une situation d'une manière mécanique, mais qu'il y a petit à petit un peu de la place peut-être pour des images un peu plus, je dirais pas compliquées, mais un peu moins évidentes à comprendre.
Des photos publiées d'abord, il faut quand même le souligner, dans le magazine de l'hôpital Neuchâtelois, le magazine qui paraît à l'interne, et non dans un quotidien illustré, prestigieux, et malgré tout, le jury vous a choisi. Est-ce que ça montre que la photo, finalement, dépasse toutes les catégories, tous les clivages ?
Ben, on peut effectivement interpréter ce signal comme ça. En tout cas, moi, je le vois dans mon quotidien que moi qui travaille un peu pour de la presse, un peu pour des entreprises, avant, c'était évident que le travail qu'on faisait pour des entreprises, ça devait être très cadré, qu'on avait peu de liberté, qu'on devait vraiment faire de la communication avec le côté un peu négatif qu'on pouvait voir derrière ce terme, alors que dans la presse, on y voyait une forme de liberté, une forme d'objectivité. Et je remarque que maintenant, j'ai presque plus de liberté dans le travail pour des entreprises où là on vient justement chercher un regard un petit peu différent et peut-être un peu plus authentique, alors que dans la presse on est tellement il y a également tellement de contraintes que c'est difficile d'y mettre vraiment son regard personnel.
On va parler maintenant de ce travail à proprement parler, hein, ce travail réalisé auprès de Daniela. En quoi ce travail réalisé dans l'intimité d'une personne qui souffre d'un cancer représente en elle-même cette démarche? La vôtre, votre personnalité de photographe.
Ben, elle le représente assez bien parce que c'est d'une part une demande de Daniela elle-même qui m'a demandé de porter un regard sur la situation qu'elle traversait. Et elle m'a vraiment donné une carte blanche. Et je me suis dit que j'allais pas vouloir calquer des idées ou des concepts que j'aurais pu avoir sur elle en faisant ces photos, mais que j'avais envie d'aller vraiment sincèrement à sa rencontre et de me laisser habiter par la découverte que j'aurais en étant à son contact. Et je suis vraiment arrivé avec une grande simplicité, c'est-à-dire que je me suis juste mis en face d'elle et j'ai fait confiance à ce qui allait se produire si j'arrivais pas en imposant ma lumière, en imposant une mise en scène ou des choses comme ça. Et pour moi, c'est une grande leçon parce que j'ai remarqué que en faisant de la place sur une image, en faisant de la place au modèle, mais aussi à moi, à ce que je peux ressentir et à ce que je peux capter, il y a des choses qui se passent. C'est des choses peut-être plus ténues, peut-être plus fragiles, mais qui, une fois mis sur une photo et une fois mis en valeur, peuvent avoir une belle puissance.
Daniela se découvre, vous montre son corps meurtri, un manifeste de la résistance aussi, de la vie. Comment vous réagissez, vous, en tant que photographe, quand vous voyez ce corps qu'on est rarement amené à rencontrer ?
C'est vrai qu'on parle beaucoup du courage de Daniela et il faut vraiment le saluer. C'est pour moi, en tout cas, comme je le perçois, c'est surtout une grande marque de confiance qu'elle me fait. Après, dans les moments peut-être de plus d'intimité, c'est aussi quelque chose qui est assez compliqué, dans le sens où je suis pas juste là caché dans un coin à prendre des photos en douce. C'est vraiment un échange, donc je dois être capable aussi de recevoir cette intimité. Et puis la manière dont je vais la recevoir et ensuite la garder certaines parties, ça va aussi beaucoup parler de mon intimité à moi, de ma manière de vouloir montrer ces choses là. C'est toujours un peu une sorte de résonance. Donc moi, je suis vraiment la caisse de résonance. Donc finalement, la photo montre aussi beaucoup de moi et de ce que je suis, de ce que j'ai envie de montrer.
Guillaume Perret, maintenant que vous avez reçu ce prix, est-ce que ça va changer quelque chose dans votre approche du métier ? Est-ce que vous allez vous mettre, peut-être que le mot est mal choisi, mais plus de pression, est-ce que vous allez faire plus attention aux choix artistiques que vous allez faire, à vos inspirations? Est-ce que vous êtes comme un cuisinier étoilé qui a peur de tout, qui a peur surtout de perdre ses étoiles, son prestige?
Non, au contraire, c'est plutôt une marque de confiance sur mon style, ma manière de voir les choses, de ma manière de voir les gens. Et je pense que ça a plutôt tendance à me libérer et à me dire vas-y, fais les choses comme tu le sens, ose être toi-même, c'est reconnu, ça a de la valeur et continue là-dedans.
Vous continuez là-dedans, donc ce métier que vous embrassez en rompant avec votre carrière précédente, vous entrez dans la photographie de manière autodidacte, alors que ce métier était déjà en proie à des questionnements, si ce n'est pas à une crise. On l'a entendu tout à l'heure, la presse écrite traverse une crise aussi, ce qui peut impacter directement aussi les débouchés des photographes. Quel regard vous portez sur ce métier, à l'heure aussi où les moyens de photographier se perfectionnent, se numérisent et se démocratisent? Est-ce qu'il y aura encore une place pour justement ce regard que vous avez défendu et qui est récompensé au niveau suisse aujourd'hui?
Oui, je pense justement que s'il y a une chose qui peut survivre sur toute la révolution médiatique qu'on est en train de vivre, que ce soit au travers des choses technologiques ou à la manière dont on consomme les images, c'est justement ce qui fait notre partie humaine du photographe. Et si je devais donner un conseil à des photographes, je leur dirais investissez et misez que sur ce qui vous caractérise vous, ce qui fait votre singularité, développez votre propre regard sur le monde sans se laisser trop influencer, parce que ça, ce sera toujours unique et jamais remplaçable par des machines ou par des algorithmes ou par un avenir incertain, quel qu'il soit.
Un conseil qu'on garde précieusement, Guillaume Perret, merci beaucoup, parce qu'il n'est pas seulement valable, j'imagine, pour les photographes, il est valable pour bien des métiers qui évoluent avec le temps. On vous souhaite évidemment plein succès dans cette carrière brillante, et puis on vous remercie infiniment d'être venu dans Place Publique pour nous parler de votre démarche, votre travail. À bientôt.
Merci à vous, bonne soirée, au revoir.
Place Publique.